À l'écoute de RFI, 21h à Paris, 19h en temps universel.
Sophie Pouzrat.
Au sommaire de ce journal, l'équipe de France victorieuse face à la Belgique en 8e de finale de l'Euro de football. Elle décroche donc son billet pour les quarts sur un score de 1-0 contre les Diables Rouges. La France, secouée aussi par l'actualité politique, le Rassemblement National arrive en tête du premier tour des législatives anticipées avec près de 33% des voix. Mais pas sûr que le parti d'extrême droite obtienne la majorité absolue au second tour dimanche prochain. On vous explique tout ça. À la une également, la Belgique cède sa place à la tête de la présidence de l'Union européenne. C'est la Hongrie de Viktor Orban qui prend sa suite et ça inquiète dans les milieux européens, vous l'entendrez. Et puis en Italie, plusieurs tonnes de composants chimiques destinés à la production de drogues de synthèse ont été découverts à l'aéroport de Milan. On démarre donc ce journal avec cette victoire de l'équipe de France sur les terrains de foot de l'Euro 2024. Victoire 1-0 face à la Belgique pour ce match de 8e de finale. Les Bleus décrochent donc leur ticket pour les quarts. Écoutez la réaction du sélectionneur tricolore Didier Deschamps.
C'est beau, voilà. On a fait un gros match face à une belle équipe, c'était serré. Même si je pense qu'on a eu beaucoup plus de possessions et beaucoup plus d'occasions aussi, mais bon. Même si on a eu pas mal d'occasions, de situations de frappe qu'on n'a pas toutes cadrées malheureusement. Mais voilà, on a fait beaucoup de très très bonnes choses et de par la qualité de l'adversaire en face aussi. Donc il faut savourer, il ne faut pas banaliser, on est en quart. Eux, ils rentrent à la maison malheureusement. Donc voilà, et puis... Colo, c'est beau.
Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps qui revenait sur cette victoire des Bleus grâce au but de Randal Kolo Muani. Et en parallèle, un autre joueur de l'équipe, Jules Koundé, appelle à faire barrage, je cite, à l'extrême droite et au Rassemblement National. Déclaration faite au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives, résultats définitifs qui ont été publiés ce lundi matin par le ministère de l'Intérieur. Et le parti du Rassemblement National et ses alliés obtiennent un peu plus de 33% des voix devant le nouveau Front Populaire qui lui récolte environ 28% des suffrages. La coalition présidentielle, quant à elle, termine en troisième position avec 20% et déjà une centaine de candidats, soit de gauche, soit du camp présidentiel, annoncent qu'ils retirent leur candidature. Arrivés souvent en troisième position de leur circonscription, ils font ce choix pour contrer le RN. Il faut dire que selon plusieurs estimations, le parti pourrait obtenir la majorité absolue. Mais alors avec ou sans cette majorité absolue, le parti peut-il espérer arriver à Matignon ? Élément de réponse avec Pierrick Bonneau.
Sur le papier, les réserves de voix du Rassemblement National sont très réduites en vue du second tour. Pour parvenir à la majorité absolue dimanche prochain, le parti a peu de marge de manœuvre. Il espère attirer dans ses filets deux catégories d'électeurs qui n'ont pas voté RN au premier tour, ceux qui ne veulent pas élire un député de la France insoumise et les déçus des désistements en cours entre la gauche et la coalition présidentielle. Et si le Rassemblement National acceptait finalement de former un gouvernement, même sans majorité absolue, l'hypothèse refait surface ces dernières heures. Le patron du RN a éludé la question ce matin en arrivant au siège du parti, mais plusieurs cadres frontistes ne ferment pas la porte. Sébastien Chenu notamment, réélu dès le premier tour hier soir, il laisse entendre chez nos confrères de France 2 que le RN assumera ses responsabilités si d'autres députés venaient à soutenir une possible majorité relative. Les regards se tournent évidemment vers les LR qui n'ont pas déjà rejoint le Rassemblement National. Certains chez nous ont tellement envie de gouverner qu'ils seraient prêts à tout, nous confiait juste avant la dissolution un député de droite.
Pierrick Bonneau et ses résultats sont aussi commentés à l'étranger, évidemment pour la chef de la diplomatie allemande. Par exemple, la victoire du Rassemblement National ne peut, je cite, laisser personne indifférent. À l'échelle européenne, ce lundi marque la fin de la présidence belge de l'UE et le début pour un semestre de la présidence hongroise. Une présidence qui inquiète les milieux européens étant donné les relations pour le moins difficiles entre les autorités hongroises et les institutions européennes. Pour le chercheur Lukasz Masek, Viktor Orban, la présidence hongroise devrait cependant jouer la carte du consensus plus que celle de la confrontation, écoutez.
Si on se souvient de la première présidence hongroise, le contexte était sans doute différent, donc on ne peut pas non plus s'attendre à ce que ce soit exactement la même chose. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, c'était plutôt une présidence qui cherchait à être relativement accommodante, consensuelle. Mais en tout cas, ça s'est pas traduit, me semble-t-il, par des tensions ou par des blocages particuliers. Donc je pense qu'il y a des chances que cette fois-ci, on soit un peu sur la même longueur d'onde.
Est-ce que vous avez le sentiment que Viktor Orbán a adouci son discours, ses propos avant cette présidence? On a l'impression qu'il est moins dans l'offensive.
Il y a des représentants de la Hongrie, et notamment tous ceux qui représentent la Hongrie à Bruxelles, qui font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Est-ce que Viktor Orbán, lui, personnellement, le fait? J'aurais quelques doutes. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'il a pu dire au lendemain des élections européennes ou avant, je ne dirais pas qu'il y a un effort particulièrement marqué.
Le chercheur Lukasz Masek, il était interrogé par Julien Chavannes. Les présidents américains bénéficient au moins en partie d'une immunité pénale. Décision de la Cour suprême des États-Unis sur la demande d'immunité de Donald Trump dans les poursuites dont il fait l'objet pour sa tentative de renverser le résultat de l'élection américaine de 2020. L'ancien président a réagi, il a pris la parole. Peu après cette annonce, il salue, je cite, « une grande victoire pour la démocratie ». Mais le camp de son adversaire politique, le président démocrate Joe Biden, estime de son côté que Donald Trump pense être, je cite, au-dessus des lois. Et en parallèle, l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, lui sera en prison pour aller purger sa peine. Je le rappelle, il avait été condamné à 4 mois de détention pour avoir refusé de collaborer avec la commission qui enquêtait sur l'assaut du Capitole. En Italie, à présent, une opération appelée Molecola, menée sous la coordination du parquet de Busto Arsizio, près de Milan, a conduit à la découverte de plusieurs tonnes de composants chimiques en provenance de Chine et destinés à la production de drogues de synthèse, découverte faite à l'aéroport de Milan et puis dans des entrepôts à Varese. Depuis Rome, Anne Lenier revient sur cette affaire.
L'enquête a permis de saisir plus de 6 tonnes de précurseurs sous forme de poudre utilisés pour la fabrication de MDMA, plus connu sous le nom d'ecstasy, une drogue qui peut être mortelle. Cette immense quantité, en provenance de Chine, aurait permis de produire 63 millions de pilules d'ecstasy pour une valeur commerciale estimée à 630 millions d'euros. Les substances chimiques auraient dû être distribuées par une société basée près de Milan, dans divers pays européens. Parmi ces derniers, les Pays-Bas, où grâce à la collaboration de l'agence judiciaire Eurojust, un lieu de stockage de stupéfiants a été identifié et 2 ressortissants chinois ont été arrêtés. Tandis qu'à Milan, un entrepreneur également chinois fait l'objet d'une enquête préliminaire. Il est soupçonné d'avoir supervisé l'importation de Chine des substances servant à la production de drogues de synthèse. Le résultat de l'opération dénommée Molecola, est jugé exceptionnel par les autorités italiennes. Anne Lenir, Rome, RFI.
Dans l'actualité également, on a appris ce lundi la mort d'une immense figure de la littérature européenne. L'écrivain albanais Ismail Kadare s'est éteint ce lundi à Tirana, en Albanie. Il était âgé de 88 ans et il laisse derrière lui une œuvre forte d'une 50aine d'ouvrages, du roman au théâtre, en passant par la poésie, avec une volonté constante d'affirmer sa liberté face au totalitarisme. Olivier Roger.
J'essaye de faire une littérature normale dans un pays anormal, disait Ismail Kadare. Il était né dans l'Albanie communiste du dictateur Enver Hoxha et avouait avoir survécu grâce à la littérature qui lui donnait, disait-il, le courage de résister. Élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en octobre dernier par le président Macron, Ismail Kadare n'a pourtant jamais eu à attendre la gloire et les honneurs. Son premier roman, Le général de l'armée morte, publié en 63, lui a valu une reconnaissance internationale et une flopée de prix prestigieux. Si la littérature était pour lui une seconde patrie, c'est pourtant bel et bien sa première, l'Albanie, qui fut au centre de son œuvre. Sa vie épouse les soubresauts politiques d'une nation basculant dans l'obscurantisme. Plusieurs fois contraint à l'autocritique publique, Ismail Kadare aura longtemps joué au chat et à la souris avec le régime. Et aux donneurs de leçons qui lui reprochaient de ne pas avoir été suffisamment sincère avec les dictateurs, il leur envoyait cette question: faut-il être sincère avec les bandits ou les fauves? Exilé en France en 1990, il n'aura cessé de clamer son amour de la littérature, au panthéon de laquelle il rejoint désormais ses maîtres à penser, Goethe, Cervantes ou Shakespeare.
Un portrait fait par Olivier Roger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec l'actu internationale dans un